Nous avons vu la dernière fois comment cette épreuve qu'est la vie terrestre est devenue un combat à cause de la, je puis dire, l'animosité, disons plutôt la haine de Satan envers le genre humain. Et maintenant, nous allons essayer d'élargir notre perspective en voyant comment ce combat contre Satan est aussi un combat contre nous-mêmes. En tant que le péché est entré dans le monde et a marqué notre nature humaine, et donc le terrain du combat spirituel, c'est celui d'une nature blessée. Blessé et, comme dit le catéchisme, incliné au mal. Nous allons essayer d'entrer dans cette perspective. Je voudrais, avant que nous rentrions dans cette vision des conséquences du péché originel sur la nature humaine, je voudrais vous rappeler que nous avions terminé le dernier enseignement en contemplant la victoire de Jésus. Rappelez-vous les paroles du Christ, hein, dans le monde vous aurez à souffrir, mais n'ayez pas peur, ayez confiance, gardez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde, il a vaincu le prince de ce monde. Donc d'une certaine manière, la victoire est assurée, mais en même temps, Jésus veut nous associer à cette victoire. Et on peut dire que le combat spirituel, c'est notre participation à la victoire du Christ qui veut nous donner de combattre avec lui. Ça veut dire aussi, vous voyez, que le fait que nous soyons associés au combat que le Christ a mené pour nous, nous montre que ce combat qui est en définitive celui de la rédemption, celui du salut, combat du salut, il nous faut penser que nous ne le menons pas simplement pour nous-mêmes, mais pour les autres. On ne combat jamais seul, on combat avec le Christ, et on ne combat jamais seulement pour soi, on combat aussi en étant solidaire d'autres personnes qui sont aussi, attaquées par le malin, et qui ont besoin de notre combat, qui ont besoin de notre persévérance dans le combat pour pouvoir obtenir la victoire. Le fait de penser que nous sommes solidaires les uns des autres dans ce combat peut nous aider à le mener à certains moments. Quand nous n'avons plus le goût à le mener pour nous-mêmes, nous ne pouvons le mener pour d'autres. Et aussi, nous pouvons nous dire que nous n'avons que cette vie pour combattre pour Jésus. Autrement dit, pour aider Jésus à sauver les âmes, pour parler d'une autre manière. Nous essayons de voir de quelle manière donc nous sommes appelés à combattre en Jésus et par Jésus, en essayant donc cette fois-ci de comprendre plus profondément les conséquences du péché originel, et pour cela en essayant de comprendre aussi davantage la nature humaine qui donc a été blessée, comme dit le catéchisme, hein, elle n'est pas totalement corrompue, la nature humaine, mais elle est blessée. Blessée et inclinée au péché. Alors, pour comprendre cette blessure de la nature humaine, je vous invite à contempler le récit de la création de l'homme. Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. la glaise d'un côté et l'haleine de vie, le souffle roi, le souffle de l'autre, nous rappelle, ces images de la Genèse nous rappellent que l'homme est essentiellement un esprit incarné, un esprit dans la chair. Je pense que c'est la définition la plus précise que nous puissions donner de l'homme. L'esprit est créé directement par Dieu. Cet esprit qui fait de l'homme un être spirituel, d'une manière semblable aux anges, qui sont aussi des esprits, mais des esprits purs. Cet esprit qui a, je dirais, d'une manière particulière, qui porte l'image de Dieu, ce par quoi l'homme est plus particulièrement image de Dieu, qui lui-même est esprit, c'est son esprit. Je dis cela tout en rappelant ce qu'enseigne le catéchisme, c'est-à-dire que le corps de l'homme participe aussi à la dignité de l'image de Dieu. Mais c'est évident que ce qui est plus particulièrement à l'image de Dieu en nous, c'est l'esprit. L'esprit qui anime la chair. L'esprit qui anime la chair et qui est dans un rapport d'interpénétration, pour reprendre une expression de Benoît XVI, avec la matière, mais de telle manière que l'esprit et la chair ne forment qu'une seule nature humaine. C'est cela que nous avons beaucoup de mal à comprendre. Une nature humaine qui est donc complexe, à la fois corporelle et spirituelle. Quand je dis ça, je dis en même temps à la fois esprit incarné et, pour reprendre une expression de Jean-Paul II, corps spiritualisé. C'est-à-dire le corps humain est pénétré par l'esprit. Beaucoup plus profondément que nous ne pouvons le concevoir. Dans la tradition de l'Église, ce rapport entre l'esprit et le corps est considéré comme une des questions les plus complexes auxquelles l'intelligence humaine puisse être confrontée. Je souligne que la personne humaine est d'abord un esprit, qu'elle est d'abord esprit, en vous rappelant que, après la mort, la personne humaine subsiste comme personne humaine en tant qu'esprit, ou on parle aussi d'âme séparée, mais l'expression qu'on trouve dans l'Écriture, pour parler de ceux qui sont auprès de Dieu, donc par-delà le voile de la mort, c'est pneuma, c'est l'esprit. Je vous rappelle, Hébreux 12, qui parle de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, donc qui sont déjà auprès de Dieu, les esprits des justes. Alors c'est vrai que nous croyons en même temps que les esprits des justes qui sont déjà auprès de Dieu sont en attente de retrouver leur corps avec la résurrection, puisque cette unité de l'esprit et du corps est nécessaire pour la perfection de notre nature humaine, puisqu'il s'agit d'une seule nature humaine. Voyez que j'ai aussi, dans cette manière de présenter la personne humaine, j'ai évité de parler de l'âme. J'ai évité de parler de l'âme pour vous faire comprendre que l'âme, en réalité, c'est l'esprit, mais en tant qu'il anime le corps. L'âme humaine est une âme spirituelle. Le catéchisme là-dessus insiste pour montrer la dignité de l'âme comme le principe spirituel en l'homme, qui désigne ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui. Et donc, il n'y a pas de distinction réelle à faire entre l'âme et l'esprit, contrairement à ce que certains seraient tentés de dire. Mais quand on dit âme, donc on dit l'esprit en tant qu'il a la charge du corps, si je puis dire, qu'il doit l'animer, et donc en tant qu'il est doué non seulement de facultés spirituelles, comme les anges, d'une intelligence et d'une volonté, mais aussi doué de facultés psychiques, à la différence des anges. Les anges n'ont pas d'âme, évidemment. Ils sont esprits purs. Âme est relatif au corps. Il n'y a pas de sens de parler d'âme, si ce n'est par rapport au corps. Et donc, l'esprit est doué de facultés psychiques qui sont... là pour lui permettre d'animer le corps et qui sont donc, on peut le dire, à la frontière de l'esprit et du corps. Mais il faut maintenir que c'est l'esprit qui anime, donc que l'âme est un esprit, mais avec des puissances psychiques. Ce qui ne fait pas du psychisme une réalité séparée de l'esprit. Mais vous voyez, tantôt on peut être amené à considérer le psychisme qui reste, je dirais, à la frontière du monde spirituel et du monde matériel. Tantôt on peut être amené à considérer le psychisme côté esprit, et on parle de l'âme. Tantôt, on peut être amené à considérer le psychisme en tant qu'il est très uni au corps, évidemment, puisque l'esprit et l'âme forment une seule nature humaine. A fortiori, l'unité entre le psychisme et le corps est très forte, puisque en réalité, c'est lui qui, concrètement, réalise cette unité entre l'esprit et le corps. Et quand on parle du psychisme, je dirais, en tant qu'il est à la frontière du corps, qu'il est intimement lié au corps, on trouve dans l'écriture une distinction, esprit, donc chair, dans lequel souvent chair contient à la fois le corps et le psychisme. On va parler des passions de la chair. Les passions et les convoitises de la chair. Voyez, en contraposant avec l'esprit. Par contre, si on dit corps-âme, on regarde le psychisme en tant qu'il est puissance de l'esprit, et donc ça forme l'âme, en considérant donc cette réalité de l'âme qu'on peut dire assez complexe, au sens où elle a à la fois des facultés spirituelles et des facultés psychiques. Dans tout cela, il faut se rappeler le primat de l'esprit. Je prends un exemple très concret. Quelqu'un fait une psychothérapie. Elle va travailler au niveau psychique. Si elle ne veut pas guérir, elle ne guérira pas. Si l'esprit dit non, il n'y a rien à faire. Ça bloque. On voit qu'en définitive, c'est l'esprit qui décide. là où gît notre liberté profonde. Donc, dans cette vision de l'homme comme esprit incarné, nous avons une vision de l'homme à la fois, je reprends une expression de Benoît XVI, un et duel. Il évite de dire dualiste, parce que c'est mal compris. Hein, l'expression dualiste a tout de suite un sens d'opposition entre l'âme et le corps, ou entre l'esprit et la chair. Il utilise l'expression un et duel dans son encyclique Deus Caritas Est. Tout en ayant donc cette vision de l'homme comme un et duel, on peut néanmoins distinguer trois dimensions, la dimension physique, la dimension psychique et la dimension spirituelle. On trouve ces expressions dans le magistère de l'Église. Je ne les ai jamais trouvées dans des encycliques, à proprement parler, mais elles ont été utilisées au moins dans une exhortation apostolique. Mais vous voyez, parler de trois dimensions en l'homme, c'est un peu dangereux au sens où on oublie que fondamentalement, il n'y a que deux principes, l'esprit d'un côté et la matière de l'autre, si je puis dire. Le psychisme est ce qui permet à l'esprit d'animer la matière. Mais il ne faudrait surtout pas diviser l'homme en trois. Avoir une vision tripartiste de l'homme. Vision tridimensionnelle, oui, mais pas tripartiste. Je ne sais pas si ce genre de subtilité vous parle, mais c'est important parce qu'on risque d'oublier qu'en définitive, on risque de diviser l'âme en deux. Une partie spirituelle et une partie psychique. Et d'oublier qu'en définitive, c'est l'esprit lui-même qui anime le corps. Certes, avec les facultés psychiques, mais c'est quand même l'esprit qui pénètre la matière. L'esprit en l'homme, cet esprit qui est plus particulièrement créé à l'image de Dieu. Cet esprit apparaît dans l'Écriture comme celui qui languit, enfin plutôt qui a soif, qui crie sa soif de Dieu. L'esprit en nous est fait pour voir Dieu, et pour s'unir à lui, comme dit saint Thomas d'Aquin, par mode de connaissance, c'est-à-dire par cette vision elle-même, jusqu'à ne faire qu'un seul esprit avec le Seigneur, qui lui-même est esprit, pour reprendre l'expression de saint Paul en 1 Corinthiens 6, 16 et 17, où il compare l'union de l'homme et de la femme qui ne sont qu'une seule chair, avec l'union de l'homme à son Seigneur qui ne fait qu'un seul esprit. L'union à Dieu donc se réalise au niveau de l'esprit de manière évidente. Et en même temps, dans cette affirmation est contenu le fait que c'est l'esprit qui voit, c'est l'esprit qui connaît. C'est pas simplement l'intelligence au sens où on l'entend communément ici, mais c'est l'esprit en tant que qu'il est capable de toucher, d'atteindre le réel, de le voir, au-delà d'une compréhension intellectuelle, évidemment. C'est par notre esprit que nous sommes en contact le plus fort avec la réalité. Il y a le toucher par le corps, mais il y a le toucher spirituel par l'esprit. Quand on fait cette expérience, quand on pense très fortement à quelqu'un, que notre esprit est vraiment tourné vers lui, qu'on pense à lui, qu'on est uni à lui par l'esprit, il arrive souvent que la personne le ressente. Tellement il y a un contact réel. Et que la personne soit amenée à penser elle-même à celle qui pense à elle. Hein? Alors, on peut certes dire, essayer d'expliquer les choses à un niveau psychique, hein? Et aussi en termes de champs électromagnétiques. Il semble bien que ça fonctionne aussi avec des champs. Hein? Mais en définitive, c'est derrière ça, il y a la puissance de l'esprit. Qui touche réellement l'autre, qui n'est pas limité par la distance physique. On pourrait aussi, pour manifester cette puissance de l'esprit qui me met en contact avec la réalité qu'il voit et qu'il connaît, la puissance, évidemment, de pensée négative, forte de l'esprit, qui pèse comme un poids sur l'autre. Je le juge, dans mon esprit, je le condamne, je l'abaisse, et la personne est elle-même atteinte par ce mauvais esprit. C'est certes, on peut, des psychologues vont essayer d'expliquer cette interdépendance entre les personnes humaines en se situant uniquement au niveau de ce qui apparaît sensiblement, c'est-à-dire des mécanismes psychiques. Mais en réalité, les mécanismes psychiques, en arrière-fond, il y a l'esprit. Ce sont des puissances de l'esprit. En réalité, nous avons une force en tant qu'esprit que nous n'utilisons le plus souvent pas, parce que notre esprit, souvent, il sommeille. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes des êtres spirituels. Et en définitive, fait pour voir Dieu, capax Dei, avec la grâce de Dieu évidemment, mais avec des dispositions naturelles qui fait que nous sommes capables d'accueillir l'Esprit Saint et par la grâce des dons de l'Esprit, capables de réellement voir Dieu. J'ai eu l'occasion de parler avec un aumônier d'hôpital psychiatrique qui confessait une personne gravement schizophrène, donc complètement perdue et incohérente et dans la folie. Et il y a eu un moment à l'intérieur de la confession où son esprit s'est comme réveillé, sorti de ce qui l'empêchait de s'exprimer, si je puis dire, et elle a commencé à dire en toute vérité, avec une lucidité incroyable, pourquoi elle était devenue folle. et ses péchés réels. Ça a duré 20 minutes, et ensuite elle est retombée dans sa folie. L'aumônier m'a dit, là j'ai vu ce que c'était l'âme, et l'âme au sens fort du terme, c'est-à-dire le principe spirituel. Il aurait été peut-être plus juste de dire, j'ai rencontré son esprit. Et donc c'est important de se rendre compte de ça, de se rendre compte que cet esprit, précisément, on va le voir, c'est une des conséquences du péché originel, il a été en même temps affaibli, c'est vrai. Il est affaibli, mais il n'en reste pas moins avec cette dignité qu'il gardera toujours, même en enfer. Ici, je vous invite à une contemplation de l'enfer, c'est-à-dire que nous avons affaire à des êtres, donc ici il s'agit d'esprits, en attendant la résurrection du corps des damnés, et sinon il s'agit d'esprits qui sont dans une haine totale de Dieu, pétrifiés dans la haine. Ces esprits pétrifiés dans une haine spirituelle de Dieu, dans une révolte, un état de blasphème, en même temps souffrent de quoi? De la peine du dâme. Et c'est quoi? C'est la privation de la vision de Dieu. Donc ces esprits qui pourtant rejettent Dieu de toute leur force d'esprit, devenant comme le laisse penser Jésus quand il parle des pharisiens en tant que fils du diable, devenant semblables aux démons, dans leur révolte, totale, ces esprits n'en continuent pas moins à souffrir terriblement de ne pas voir Dieu. Normalement, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne souffre pas de ne pas le voir. Ben oui. Mais pour dire à quel point l'esprit humain est fait pour Dieu, c'est que même dans la haine de Dieu, il souffre d'être privé de Dieu. Ouais. Ça montre la grandeur de l'esprit en même temps. Sa dignité d'être particulièrement créé à l'image de Dieu demeure en enfer. L'esprit est fait pour Dieu, si bien que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, il n'est pas seulement chair, mais il est plus encore esprit. Et l'esprit se nourrit dès cette vie de la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque, en définitive, la vie de l'esprit, c'est la vision de l'homme, de Dieu, je veux dire. Connaissez l'expression de saint Irénée, la vie de l'homme, je crois que c'est comme ça, c'est la vision de Dieu et la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, c'est reprendre Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et la vie éternelle, c'est proprement cette vie de l'esprit qui, en fait, ne peut vraiment vivre que s'il est en relation avec Dieu. C'est pour ça que le péché est interprété comme la mort de l'âme. La connaissance de Dieu qui fait la vie de l'esprit, qui peut seul rassasier l'homme, vraiment, c'est donc en même temps cette connaissance de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus intime, de plus vital en nous. Pour comprendre que la connaissance de Dieu, c'est ce qu'il y a de, à la fois de plus intime, de plus fort, de plus vital, il suffit de regarder les saints qui connaissent Dieu et qui peuvent arriver à vivre même sans manger, comme une Marthe Robin. Là, ce n'est pas simplement la force de l'esprit, encore que par une ascèse, on le voit dans les traditions orientales, l'homme peut par une ascèse et par ses propres forces arriver à une, je dirais, à vivre des privations corporelles étonnantes, hein, faut le reconnaître, mais qui n'égalent pas ce que peuvent vivre les saints, qui sont forts non pas seulement de la force propre de l'esprit, mais qui sont forts de l'union à Dieu, de la connaissance de Dieu, de cette vie éternelle qui commence déjà donc sur cette terre et qui est le contact de notre esprit avec Dieu jusqu'à ne faire qu'un seul esprit avec lui. L'Église nous enseigne que l'homme a été créé à l'origine dans un état de sainteté, de justice de sainteté. Et donc, à l'origine, Adam, l'esprit d'Adam a été créé en état d'union à Dieu. Donc, il était fort de cette union, de cette connaissance de Dieu, qui n'était pas parfaite, mais qui était réelle. Il a été créé dans la foi, l'espérance et la charité. On reviendra sur ces trois vertus théologales. Mais il a été créé, donc, esprit uni à Dieu qui est esprit. Ce qui peut se faire même à l'insu, hein, de l'homme. Au sens où, par la grâce du baptême, les petits-enfants sont mis en contact avec Dieu, leur esprit est uni à Dieu par le don de la charité divine, sans qu'ils aient conscience encore de cette union qui se réalise donc au niveau de leur esprit, de ce qu'il y a de plus intime en eux. Donc, Adam a été créé en état d'union à Dieu. C'est-à-dire qu'il a été créé dans la connaissance de Dieu. Avec le péché originel, il a perdu ce contact avec Dieu. Comment voulez-vous que l'esprit fait radicalement, totalement pour Dieu, s'il perd l'union à Dieu, s'il ne voit plus Dieu, comment voulez-vous qu'il ne soit pas blessé et profondément affaibli ? Impossible. Parce qu'encore une fois, cette privation de Dieu est comme une mort pour l'esprit. Pour dire les choses de manière plus précise, notre esprit est fait pour vivre donc dans la vision de Dieu, de la vision de Dieu et dans la vision de Dieu. C'est-à-dire aussi qu'il est fait pour vivre dans la lumière de Dieu. Cet esprit qui est capable, qui est aussi intelligence, hein, et qui doit donc nous, le principe d'animation de notre vie. C'est-à-dire, c'est par notre esprit que nous pouvons poser des actes libres, discerner ce que nous devons faire, faire les choix dans notre vie. L'homme est libre parce qu'il est un être spirituel. Et voilà que cet être spirituel se retrouve plongé dans la nuit. Dans la nuit du péché. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas parce qu'il voit la lumière de ce jour. Mais s'il marche la nuit, il bute parce que la lumière n'est pas en lui. Mais la lumière n'est pas en nous si nous perdons la connaissance de Dieu. Et à ce moment-là, l'image que l'on voit, qui traverse toute l'Écriture, c'est que l'humanité marche dans les ténèbres. Et à ce moment-là, Satan peut être appelé le prince des ténèbres. En tant qu'il fait tout pour nous faire perdre la connaissance de Dieu. Et si nous perdons la connaissance de Dieu, ça veut dire que l'esprit perd la lumière au sens où on ne voit plus celui pour lequel on est fait. Donc on ne voit plus le sens de cette vie. On ne voit plus le sens des choses. Le pécheur dans l'Écriture est appelé régulièrement l'insensé. Le pécheur et l'insensé, c'est la même chose. C'est un être spirituel qui est détourné de sa vraie finalité et qui se retrouve privé de la chose la plus précieuse sur cette terre et qui s'appelle la sagesse. Nous pouvons relire le passage que j'avais commencé à vous lire la dernière fois de l'Épître aux Romains à propos des païens. Ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous. Et il est dit par la suite, ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu. Pourquoi ? Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement. Esprit privé de jugement. Ils sont devenus fous, insensés, puisqu'ils n'ont pas gardé la vraie connaissance de Dieu en raison de leur refus de rendre grâce, en raison de leur péché d'orgueil. Maintenant, si la nature humaine, comme le dit le catéchisme, est désormais soumise à l'ignorance, c'est dans le catéchisme numéro 405. Si la nature humaine est soumise à l'ignorance, cette ignorance malgré tout, n'est pas total. L'esprit humain garde une sorte de capacité naturelle, non pas à connaître Dieu intimement, que seul peut donner la charité, mais à une certaine reconnaissance, malgré tout, du Créateur à travers la création. Mais considérons l'histoire de l'humanité, quels sont les philosophes qui ont accédé, quels sont les hommes qui, par leur propre effort, le propre exercice de leur esprit, de leur intelligence spirituelle, ont pu accéder jusqu'à l'affirmation d'un Dieu unique, créateur. On voit bien qu'en même temps, cette capacité naturelle de l'esprit à reconnaître à partir du témoignage de la création le créateur, et elle-même affaiblie, on le verra, parce que l'homme, son esprit est, de l'intérieur, donc est mortellement atteint par cette privation de Dieu, et que de plus cet esprit est aveuglé par les convoitises de la chair, sur lesquelles je vais revenir maintenant. Cet homme affaibli spirituellement parce qu'il a perdu la connaissance, la vraie connaissance, la connaissance intérieure de Dieu dans l'amour, n'a plus la force d'assurer cette animation du corps comme il devait l'assurer, dans une maîtrise du corps. Comme dit le catéchisme, la maîtrise des facultés spirituelles sur le corps est brisée. Et plus largement, la maîtrise de la création, on peut dire, est brisée. La création est devenue pour l'homme, dit le catéchisme, étrangère et hostile. Le catéchisme en parle en termes d'harmonie. Dieu ayant perdu l'harmonie avec l'homme, ayant perdu l'harmonie avec Dieu, il perd l'harmonie avec lui-même, avec les autres, avec la création. Mais on peut y voir aussi, vous voyez, dans cette perte d'harmonie, le fait que, notamment dans la relation au corps, et aussi dans la relation à la création, c'est que l'homme est diminué spirituellement. Son esprit n'a plus la même force, n'a plus la même grandeur. Et donc, il n'arrive pas, si je puis dire, à s'imposer. Vous avez remarqué, quand on a peur, les chiens attaquent. C'est une conséquence du péché originel. Si notre esprit demeurait toujours dans la connaissance de Dieu, il n'y aurait pas de peur possible. Et on voit bien qu'une des conséquences du péché qui est la peur fragilise l'esprit et fait que les animaux n'obéissent plus. Par contre, un saint François d'Assise savait parler aux loups et leur commander. Je rajouterai aussi au fait cela que l'homme, dans son enténébrement, a perdu aussi, en même temps qu'il a perdu la vraie connaissance de Dieu, même s'il reste comme une certaine connaissance partielle, hein, capacité de, je dirais, de concevoir qu'il puisse exister un être suprême, mais ce n'est pas ça la vraie connaissance de Dieu. Ce n'est pas le contact intime de l'esprit à Dieu, jusqu'à ne faire qu'un seul esprit avec lui. Mais en même temps que l'homme a perdu la connaissance de Dieu, il a perdu aussi la connaissance de lui-même en profondeur. Et notamment, il a perdu, en tout cas, il est sans cesse tenté d'oublier précisément sa dignité d'être spirituel. C'est ainsi qu'en parle le Concile dans Gaudium et Spes au numéro 10, où il rappelle que l'homme se sent illimité dans ses désirs, il est appelé à une vie supérieure, ça c'est l'homme en tant qu'esprit. Et il rajoute que beaucoup, il est vrai, beaucoup dont la vie est imprégnée de matérialisme pratique sont détournés par là d'une claire vision de cette situation. De cette situation dramatique au sens où l'homme ressent des désirs illimités et qu'en même temps il est faible, pécheur, et que finalement il accomplit des choses que son esprit ne voudrait pas accomplir, comme le montre bien saint Paul dans l'Épître aux Romains. Vous connaissez tous ces paroles. Je ne fais pas le bien que je veux, que mon esprit veut, et je commets le mal que je ne veux pas. Et donc le Concile ici parle de matérialisme, Bien précisément, l'homme est aveuglé par une sorte de matérialisme ambiant, mais qui est aussi une conséquence de son oubli de Dieu, de la perte de la connaissance de Dieu, qui fait qu'il en oublie même sa dignité d'être spirituel. Pour quelqu'un comme Darwin, il n'y avait pas de différence réelle entre un homme et un animal. Et on lit régulièrement des articles allant dans ce sens-là. Ça, c'est l'homme qui se renie lui-même après avoir renié Dieu. Mais vous voyez, on peut voir là une influence directe du malin qui pousse l'homme à cet aveuglement sur lui-même de telle manière qu'il en oublie même qu'il est un être spirituel et comme être spirituel qu'il est appelé à quelque chose de supérieur que les animaux ne connaissent pas et donc qu'il se rabaisse de plus en plus lui-même. Qu'il se rabaisse lui-même dans la vision qu'il a de lui-même et qu'il finisse par se rabaisser lui-même dans la manière de vivre, évidemment, ça va avec. Je fais une petite parenthèse. Des personnes possédées pendant un exorcisme, on voit le visage de la personne qui prend des formes et des allures animales. Pousse des grognements semblables à ceux des animaux. Ça, c'est le malin qui abaisse l'homme. Mais ce qui est visible comme ça lors d'un exorcisme, en bonne et due forme, l'est encore plus dans la société moderne. Ah oui. Alors il nous faut essayer de comprendre le combat spirituel, c'est-à-dire comment l'homme qui chemine dans la nuit du péché, l'homme qui a perdu la grâce, ou l'homme qui a la grâce du baptême, bien en lui, mais qui n'arrive pas à vivre une connaissance, je dirais, réelle et vivante de Dieu, qui n'arrive pas à ne faire qu'un seul esprit avec Dieu. Autrement dit, l'homme qui n'est pas parvenu à la sainteté, qui est notre état normal. Nous avons été créés dans la sainteté et nous sommes faits pour vivre dans la sainteté. Comment l'homme soit privé de la grâce sanctifiante, soit possédant la grâce sanctifiante mais ne la vivant pas suffisamment d'une manière vivante pour que cette grâce le transforme réellement son humanité en profondeur, comment cet homme va-t-il pouvoir parvenir à retrouver sa vraie stature d'enfant de Dieu? On peut dire que c'est là le combat spirituel, aussi tel que le décrit le Concile. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien et non sans grands efforts, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Et parce que vous l'avez compris, à partir du moment où l'esprit n'a plus la force vraiment d'animer comme il devrait le faire le corps, c'est-à-dire aussi le psychisme, enfin la chair, disons, eh bien, à ce moment-là, c'est l'unité de l'homme, l'harmonie de l'homme avec lui-même qui est détruite, c'est l'unité de l'homme. Donc, on peut voir le combat spirituel comme le combat qui permet à l'homme de retrouver son unité, d'être pleinement restauré dans son humanité. Et voyez, le Concile insiste sur le fait que c'est un combat qui ne peut pas se faire, d'abord qui est un combat continuel. L'homme doit sans cesse combattre, et non sans grands efforts. Alors nous sommes prêts à faire de grands efforts, n'est-ce pas? Sinon vous ne seriez pas venu ici. Faire cet effort déjà pour vous déplacer. Mais nous aimerions faire les grands efforts utiles, pas les grands efforts inutiles. Et donc pour cela, nous avons besoin de bien comprendre les règles du combat. Déjà, ne pas nous tromper de combat. Vous avez vu, nous avons vu déjà ici que l'homme vit une situation de combat, non seulement face au démon, mais qu'il vit aussi une situation de combat en lui-même, étant divisé en lui-même. On le montrera davantage encore par la suite. Mais je voudrais terminer en soulignant le fait que cette vie de l'esprit, cet esprit incarné qu'est l'homme, elle se décide en profondeur dans ce lieu secret, caché, insaisissable par notre raison, comme dit le catéchisme, et qui est le cœur. L'homme est un esprit incarné doué d'un cœur. Le cœur est insaisissable par la raison, dit le catéchisme, donc je ne vais pas essayer de vous le faire saisir par la raison. Mais quand on dit cœur, on dit dans le catéchisme, j'ai regardé toutes les références, à chaque fois on parle d'un lieu. Le cœur est ce lieu de la recherche de Dieu, le lieu où se forme la foi, le lieu où se forme l'espérance et l'amour, le lieu de la décision, au sens le plus profond du terme, des décisions radicales. Pourquoi ça? Parce que le cœur, c'est à la fois notre intériorité, mais c'est une intériorité dynamique, par laquelle, disons plutôt en laquelle, l'homme peut ou non se tourner vers Dieu, s'ouvrir à Dieu. Ce n'est pas le cœur qui voit Dieu, c'est l'esprit. À proprement parler, ce n'est pas le cœur qui s'unit à Dieu, c'est notre esprit qui ne fait qu'un seul esprit avec Dieu qui est esprit. Mais c'est notre cœur qui se tourne vers. C'est notre cœur qui s'ouvre. C'est notre cœur qui croit, qui fait confiance. C'est notre cœur dans lequel se vivent et se décident les dispositions intérieures qui permettront à l'esprit de voir Dieu. Et donc, en réalité, le combat le plus profond, il se situe, le vrai combat, il se situe au niveau du cœur. En vérité, les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l'homme. Gaudium et Spes, numéro 10. La racine du mal, elle est dans le cœur de l'homme. C'est dans son cœur que l'homme a laissé mourir la confiance en se laissant influencer par Satan. Le cœur, c'est à la fois le foyer central du péché, qui consiste donc en réalité fondamentalement à se détourner de Dieu. Dans la non-foi en Dieu, la non-espérance, le non-amour. Et en même temps, c'est le foyer de la conversion, disons juste à revenir vers Dieu. C'est le cœur qui se convertit. Dieu ne dit pas « convertissez votre esprit », il dit « convertissez votre cœur ». Il y a des personnes qui cherchent à travailler sur leur esprit, à développer leur puissance spirituelle. On peut dire que, je repense à certaines personnes qui parlent du bouddhisme en termes de science de l'esprit, elles pensent que par certains exercices spirituels, entre guillemets, elles vont pouvoir retrouver finalement en réalité la maîtrise du corps. Elles peuvent passer leur vie à vivre ce combat-là, jusqu'à arriver à un état de méditation transcendantale, comme ils disent. Mais le vrai combat n'est pas là. Erreur au départ. Le vrai combat ne se décide pas à ce niveau-là. Le vrai combat, il se décide dans le cœur. C'est le combat de la foi, de l'espérance et de la charité. Et que de toute façon, vouloir, je dirais, récupérer notre force spirituelle, notre domination sur nous-mêmes, sur notre corps et sur la création, par un exercice qui serait d'abord celui de l'esprit lui-même, cherchant à s'élever lui-même, c'est peine perdue, mais s'il n'y a pas que les personnes qui ne connaissent pas Dieu qui pratiquent ce genre d'ascèse, hein, c'est aussi bien des chrétiens qui se livrent à des formes d'ascèse qui oublient où est la racine du mal et où est le lieu caché central du combat. Qui donc, au lieu de travailler sur leur cœur, travaillent soit au niveau psychique, soit au niveau de leur esprit lui-même, mais qui oublie que tout se décide en définitive dans ce lieu secret. Je ne vais pas développer plus, mais vous voyez ce que j'entends quand je dis nous avons de grands efforts à faire, mais autant les faire dans le bon sens. Ne pas nous tromper de lieu de combat. Ni de combat, ni de lieu de combat.